France Culture.
Les nuits de France Culture.
Témoigner. Voilà une nécessité absolue pour les rares déportés qui ont survécu au camp de concentration. Témoigner d'abord parce que c'est un besoin vital, parce qu'il faut tout faire pour extraire de son corps et de son esprit la souffrance impensable de ces longues années. Témoigner aussi parce que le monde ne comprend pas immédiatement ce qu'il s'est passé dans ces camps de la mort. Pendant la guerre elle-même, il n'était qu'une vague rumeur, dont les récits les plus extrêmes paraissaient impossibles, littéralement incroyables. La fin de la guerre marque donc également une prise de conscience lente et douloureuse du destin de ces déportés, exterminés par millions dans les camps de la mort mis en place par Hitler et les nazis. Ce 20e de 27 épisodes de la série « Le monde concentrationnaire » de Paul Thiard, réalisé par Alain Barou, donne à entendre de nombreux extraits de ces témoignages écrits, qui aujourd'hui encore sont absolument nécessaires pour comprendre la véritable atrocité de ce monde concentrationnaire. Une émission diffusée pour la première fois le 21 mai 1965 sur France Culture, avec des lectures entre autres de Michel Bouquet, Pierre Constant, Jean Negroni, Catherine Sellers et Jean Topard.
Le monde concentrationnaire. Témoignages et documents pour servir l'histoire.
Hors du fond de la nuit, nous témoignons encore de la splendeur du jour et de tous ses présents. Robert Lesnoy.
France Culture vous invite à écouter une suite d'émissions composées pour le 20e anniversaire de la libération des camps, Le monde concentrationnaire.
Aujourd'hui, par Paul Thiard, Le message des témoins. Choix de texte écrit par des déportés après leur libération.
Pour rescapé qui veut décrire ce que fut la vie dans un camp de concentration, le mot incommunicable ne tarde pas à venir à l'esprit. Les mots de tous les jours sont trop pauvres pour faire naître le décor, pour faire vivre les sensations éprouvées. Incommunicable, en effet, la sensation de la faim pour celui qui ne l'a pas éprouvée pendant des mois et des années. Incommunicable également l'odeur des fours crématoires, le spectacle répété des pendaisons, la vue permanente des cadavres entassés, et l'idée constante que la vie et la mort sont phénomènes si proches l'un de l'autre que rien ne les sépare. Incommunicable en définitive, parce que l'inconcevable ne peut se définir ni se transmettre. On connaissait l'existence des camps de concentration hitlériens avant la guerre. Au cours de conférences effectuées en 1937 et 1938, et notamment par Albert Einstein, le monde fut informé. Mais nul ne put dire ce qui s'y passait. Nul n'avait assez d'imagination pour s'en faire une idée. Il fallut que les Alliés en ouvrissent les portes pour que la réalité de l'univers concentrationnaire se révélât à un monde frappé de stupeur. De la première visite qu'il effectua dans un camp libéré près de Gotha, le 12 avril 1945, le général Eisenhower écrira quelque temps plus tard
« Jamais je ne pourrai décrire l'émotion qui m'envahit quand je me trouvais devant la preuve évidente de la brutalité des nazis et leur mépris profond de tout sentiment humain. Je suis sûr, toutefois, que jamais je n'ai ressenti un tel sentiment de stupeur. Je visitais les moindres recoins du camp car je voulais pouvoir apporter un témoignage personnel pour le cas où l'on déclarerait un jour que les histoires de la brutalité nazie n'étaient que de la propagande. » Mais certains membres du groupe d'inspection ne purent terminer la visite. Je demandai aussitôt que les gouvernements alliés envoient des enquêteurs en Allemagne.
On se demande encore aujourd'hui si, en l'absence des photographies prises non seulement par les alliés au moment de la libération des camps, mais également par les SS eux-mêmes, photos retrouvées dans leurs archives, on aurait pu admettre sans hésitation les récits que les survivants firent de l'univers concentrationnaire. On peut aller jusqu'à se demander également si, sous ces mêmes photos, les survivants auraient pu croire qu'ils avaient une chance d'être entendus lorsqu'ils faisaient le récit de leur martyre. Car nous vivons toujours dans le domaine de l'inconcevable et de l'incommunicable. Le mur de silence et d'oubli que certains voudraient dresser entre notre monde d'aujourd'hui et les souffrances des bagnards du nazisme doit sans cesse être percé. Car les témoignages des rescapés n'apportent pas seulement la preuve de la barbarie nazie, ils apportent aussi la preuve de la valeur de l'homme dressé devant la bestialité, de la résistance de l'esprit humain. C'est une sorte de pèlerinage sacré, que de refaire le long chemin de croix qu'ont suivi ceux qui, pour la plupart, ne sont parvenus, et tout d'abord, d'emprunter avec eux le chemin de la captivité comme celui qu'effectua le docteur Francis Römer le 2 juillet 1944. Sur les 2521 déportés qui partirent de Compiègne ce jour-là, 984 moururent en cours de route et 121 seulement revinrent en France. Le docteur Francis Römer écrit
« La chaleur devient étouffante. Le soleil frappe de ses rayons de plus en plus ardents les parois des wagons qui deviennent brûlantes. À chaque arrêt, la température s'élève à l'intérieur. Je vois mes camarades quitter les uns après les autres, vestes, chemises, pantalons, ne gardant que leurs caleçons ou même se mettant tout à fait nus malgré mes conseils. Les corps ruissellent de sueur, les respirations sont haletantes. Un silence pesant s'abat sur tout le wagon. Personne ne plaisante plus. Tous somnolent. Mais certains s'agitent. On sent venir l'orage. Les nerfs sont à fleur de peau et l'angoisse monte lentement. À l'autre bout du wagon, un camarade se trouve mal, pris d'une syncope banale. Ses voisins le passent de bras en bras et le hissent vers la lucarne. On les vante avec un chiffon. Il revient à lui, réclame de l'eau. L'un lui tend sa gourde qu'il avait précieusement épargnée. Il boit avidement pendant que tous ceux qui sont autour de lui le regardent jalousement, sauf celui qui vient de sacrifier le peu d'eau qu'il avait. Quelques minutes après, un deuxième tombe en syncope. On répète la même manœuvre et il revient à lui. Il n'y a que 3 heures que nous avons quitté Compiègne, et déjà notre situation devient très critique. Le soleil est implacable. Et il en sera ainsi pendant toute la journée. La soif est terrible. Pour essayer de la calmer, certains mangent un morceau de leur saucisse, mais elle est poivrée et la soif n'en est que plus intense. Malgré toutes nos supplications, nos gardiens nous refusent de l'eau. Rarement, des cheminots au risque de leur vie réussissent à nous en passer une bouteille. Soudain, un cri désespéré, effroyable. Elle est mort. Il semblait dormir. Je l'ai secoué pour le réveiller. Il s'est affalé. X, qui vient de faire cette découverte, le regarde, hagard. Il ne peut réaliser ce malheur. Les yeux du mort sont entrouverts. Sa face est violacée et un peu de salive coule le long de ses lèvres. Il doit être mort depuis quelque temps et personne ne l'avait remarqué. Nous ne tardons pas à compter un deuxième décès. C'est le voisin de N qui, lors de la première bagarre, l'a maintenu. Soudain, il se met à crier, à se débattre, prend à partie un de ses camarades, des coups sont échangés, il retombe épuisé. Quelques minutes après, il ne respire plus. La tragédie se poursuit, s'accélérant de minute en minute. En 2-3 heures, 74 de nos camarades vont mourir de chaleur, d'asphyxie, de manque d'eau.
À son tour, le docteur Francis Römer tombe d'épuisement et son récit se poursuit ainsi.
Römer, qui m'appelle? Je suppose que c'est mon brave R. Je me sens mieux. Il ne faut pas mourir. Il faut lutter jusqu'au bout. S'ils veulent nous abattre, nous tâcherons de faire payer notre mort. Je me relève en titubant, je m'approche de mes amis. Mes pieds s'enfoncent sur les cadavres. Je dérape sur une tête et m'écroule le nez dans une fissure du plancher, couché sur je ne sais qui. Mais il respire à peine. Je tombe dans le coma. Quand je reviens à moi, la chaleur est moins torride, le soleil presque couché et le train roule plus rapidement. P me secoue. Il fait l'appel. Nous ne sommes plus que 24 à répondre. Nous allons nous étendre. Je n'en puis plus, je m'endors immédiatement. Pendant toute la nuit, R m'empêchera de glisser entre les cadavres demi-étouffés contre eux. La fraîcheur de la nuit est douce. Nous dormons sur les cadavres tout chauds.
Scène d'apocalypse que 100 photos sont là pour authentifier et qui resteront gravées à jamais dans la mémoire des survivants. Ce ne sera pourtant que le début de la vie concentrationnaire. Avec leur mort de faim, de soif, d'étouffement, de folie, les routes des convois de déportation en France, en Pologne, en Yougoslavie, en Tchécoslovaquie, en Union soviétique, seront jalonnées de morts, préfigurant déjà les innombrables victimes inconnues des camps. Mais pour ceux qui ont traversé cette première épreuve, pour ceux qui n'ont pas succombé à cette première station de leur calvaire, qui va représenter pour eux l'ouverture des wagons cadenassés, ils ne savent pas ce qui les attend. Ils n'imaginent pas que tout est concentré pour les plonger d'emblée dans le monde de la terreur. Laissons parler Jean Puisant, instituteur arrêté le 23 octobre 1943. Il fut déporté à Buchenwald du 29 janvier 1944 au 30 avril 1945. Dans un livre intitulé « La colline sans oiseaux » ou « 14 mois à Buchenwald », il relate ainsi son arrivée.
« Je me glissais jusqu'à la porte du wagon. Je me laissais couler sur le ballast. Je risquais un regard. Quel spectacle ! Dans la nuit étoilée, des forcenés hurlants frappaient à tour de bras. Des matraques blanches rayaient l'ombre et l'on entendait des chocs sourds et des gémissements. Parfois, un aboiement. De gros chiens jaunes sautaient sur des malheureux, les renversaient, les prenaient à la gorge avec des grognements rageurs. Nous prenions contact avec messieurs les SS. Sous cette avalanche, notre misérable troupeau nocturne flottait, ondoyait, fluctuait. Et toujours les crosses, les gourdins lancés à toute volée, les coups de pied, les crocs de chiens furieux qui déchiraient les étoffes et les chairs. J'avais perdu Marcel. J'avançais comme je pouvais. Un grand SS fonça sur moi, matraque levée. « Schnell, schnell !» Je lui montrai mes cannes. Il m'injuria et s'avança lentement. Mais à côté de lui surgit un officier qui l'écarta et, prenant deux de mes camarades par le bras, leur indiqua qu'ils devaient m'aider à marcher. Je me mêlai donc à la colonne, traîné par deux inconnus, fous de peur. Quel spectacle! Dans la nuit, ces fantômes pieds nus dans la boue, brutalisés par des monstres vociférants, harcelés par des grands chiens sauvages, éblouis par des éclairs rapides, des torches électriques, piétinant, terrorisés sur une terre étrangère, sous un ciel hostile, au milieu des coups et des injures. Je vis un vieillard vaciller sous le choc mat d'une crosse qui lui frappa les côtes, puis s'affaler comme un pantin cassé. J'entrevis aussi un prêtre aux prises avec deux SS qui se moquaient de lui, et dont l'un d'eux, enfonçant de son poing le chapeau noir sur la tête du malheureux, lui criait « Dominus vobiscum, Dominus vobiscum !» tandis que l'autre, un coup de crosse, lui fendait la joue.
Comme la presque totalité des arrivées dans les camps de concentration, cette arrivée à Buchenwald s'est effectuée la nuit. La nuit fait en effet partie du cérémonial hitlérien. Presque toutes les grandes manifestations du régime se déroulent la nuit, que ce soit à Nuremberg, Munich ou Berlin, et à la lueur des torches, pour frapper les imaginations, pour éviter aux esprits de penser ou de réfléchir quand le Führer hurle ses discours. Dans les camps aussi, il faut frapper les imaginations. Le chirurgien François Wetterwald, qui devait réussir à créer au camp d'Ebensee, avec le professeur Gilbert Dreyfus, une véritable infirmerie où des centaines de déportés furent sauvés, raconte ainsi dans son livre « Les morts inutiles » l'arrivée à Mauthausen.
Il faut frapper l'imagination, il faut que nous comprenions vite ce qui nous arrive. Gloire au décor qui dresse sur une butte, une citadelle, une espèce de château fort qu'on atteint lentement dans la nuit tombée en suivant une route à flanc de colline. Murs hauts, flanqués de tours de garde aux toits baroques. Des projecteurs illuminent des murs intérieurs. De l'ensemble se dégage une impression d'irréel qui étreinte un peu. Attends, ceci n'est que le début. Regarde de tous tes yeux. Regarde. Voici l'entrée. Immense portail massif, bardé de fer. De chaque côté, des SS cravachent les rangs pour les remettre en ordre et pouvoir nous compter à leur gré. Une cour entre des bâtiments bas, on tourne à droite et on s'immobilise. Spectacle étrange. Pas un bruit, à part un grondement sourd de foule qui piétine et a peur. Nous sommes alignés en deux masses bordant une route cimentée. Des hommes convenablement vêtus, non sans une élégance de mauvais aloi, un numéro sur le côté gauche de la poitrine, vont et viennent coiffés de casquettes plates. Ce sont les capots, les hommes de confiance. Ils maintiennent l'ordre brutalement, à coups de poing. La soif nous étreint. Combien de temps sommes-nous restés ainsi, perdus dans un rêve incertain? Quelques images le traversent. Un être blême derrière la fenêtre du bâtiment devant lequel nous stationnons. Crâne rasé, visage simiesque, il montre une petite bouteille d'eau et fait signe avec les doigts qu'il la donnera contre une montre. D'aucuns se laissent tenter. DSS passe entre nos rangs. Un jeune officier notamment, beau, fin, élégant, racé, qui semble à peine nous voir et jette de temps en temps, d'un air suprêmement nonchalant, son dogue sur un groupe ou sur un autre. Courte échauffourée, cris de douleur, ondulation des rangs, ruée des capots et l'ordre renaît. Qu'attendons-nous? Nul ne le sait. Il est plus de minuit, le froid est vif. La file avance brusquement. Un ordre, il faut se dévêtir. Les vêtements sont jetés en tas au hasard. Nous attendons en frissonnant, essayant de ne pas trop imaginer ce qui va suivre. Un escalier menant au sous-sol, et là, une grande salle, haute, carrelée, contenant des centaines d'hommes nus. Mais ce sont les lumières et leur jeu qui étonnent, le surprenant assemblage des ombres, pénombres et surfaces claires. Lumière dans l'ensemble comme tamisée, diffuse, avec dans un coin un jaillissement net, cru, aveuglant, sous lequel il faut passer. On passe. Une des berges de l'ombre est occupée par une rangée de personnages aux étranges têtes, tout en bosse, en méplat, en estompe, crâne rasé. Ils portent des blouses blanches qui laissent dépasser des pantalons rayés de gris et de bleu. Des médecins. On tourne et se tourne devant eux qui nous marquent d'inscriptions mystérieuses au crayon encre. Désinfection, puis douche miséricordieuse, où l'on engloutit l'eau tiède. Enfin, tondu, lavé, dépouillé, nous voici couverts d'une chemise et d'un caleçon à rayures, chaussés de socs en bois. Alors voilà, c'est fini. Comprends, mais comprends donc, tu n'es plus rien. Pas même un esclave sans secours, devant aucun code. Te voici livré aux lois des besoins élémentaires. Et il ne te reste plus comme richesse que tes richesses intérieures.
Dans les camps réservés aux femmes, l'arrivée se déroule selon le même cérémonial. Là aussi, il faut frapper l'imagination, et la mise en scène est également organisée d'une façon diabolique, toujours dans la nuit et sous les lueurs aveuglantes, comme l'écrit dans Souvenir de la Maison des Mortes, Madame Denise Dufournier, qui, avocate à Paris, fut déportée à Ravensbrück en janvier 1944.
Je crains qu'aucun récit ne puisse jamais exprimer le choc que la mise en scène de cette arrivée produisit sur nous. D'énormes projecteurs nous firent passer sans transition de la nuit la plus complète à une lumière aveuglante. mais cette lumière était sans doute savamment combinée afin de désorienter le plus possible nos esprits. Des zones de clarté intense alternaient avec des zones d'obscurité totale, de sorte que l'on était frappé par une espèce d'incompréhension et qu'en dehors des premiers plans agrandis, on ne pouvait à peu près rien deviner de la disposition des lieux. Une immense porte, ouverte, derrière laquelle était levée une barrière de fer tenant à la fois du passage à niveau et de la guillotine, encadrée de deux bâtiments verts devant lesquels des soldats montaient la garde, nous engloutit rang par rang.
L'anéantissement des pauvres gens se faisait systématiquement dès leur descente de train. Pelagia Lewinska, polonaise arrêtée à Cracovie en octobre 1942 pour fait de résistance, raconte une de ses arrivées dans son livre intitulé « 20 mois à Auschwitz ». Détail horrible, alors que les misérables voués à la mort se dirigeaient vers les chambres à gaz, un chœur de femmes déportées, sur ordre des SS, chantait des lieds.
Les trains se suivaient, amenant des wagons remplis de prisonniers. Il en venait 5 par jour en mai 1944, et chaque train était composé de 50 voitures. Et il y avait 100 êtres humains dans chaque voiture. De tous ces wagons sortaient en chœur des voix de vieillards, de femmes et d'enfants, implorant une seule chose, Wasser, de l'eau. J'observais les figures de nos chefs et gardiens, en me demandant si c'était encore des faces humaines. Le chef nous lançait alors l'ordre « Ein Lied !» et les voix d'esclaves entonnaient « Frühling in das Land !» C'est le printemps dans le monde. On a rendu sourdes tes oreilles, citoyen allemand, car ta conscience avait été tuée depuis longtemps. Et cependant, les gens sortaient des wagons, se mettaient tranquillement en rang par 5 et se rendaient passivement en colonne jusqu'aux chambres à gaz. Confiants, ils acceptaient les serviettes et entraient pleins de foi dans les salles, espérant y trouver de l'eau vivifiante. Et c'est alors, mais il était trop tard, qu'ils s'apercevaient que c'était du gaz qui descendait des robinets d'eau. La mort. Frühling in das Land. C'est le printemps dans le monde.
Il y avait plus horrible encore. C'était la plupart du temps par famille entière que les Juifs étaient déportés. Femmes, vieillards, enfants, entassés dans un même wagon. Si pendant le voyage, ils gardaient la déchirante consolation de rester unis, une atroce réalité les attendait à l'arrivée. Quand les SS faisaient ce qu'ils appelaient le tri, choisissant parmi les nouveaux venus ceux qui pouvaient encore travailler et désignant les autres pour la mort immédiate. Voici des pages poignantes que l'on ne peut écouter sans frémir. Elles sont extraites de « Souvenirs de l'au-delà » par Olga Lengiel, qui, médecin en Transylvanie, fut déportée à Auschwitz avec toute sa famille. Elle seule est revenue, son père, sa mère, son mari et ses 2 enfants ayant été envoyés à la chambre à gaz.
Lorsque les voyageurs furent rassemblés sur le quai, on descendit les bagages et enfin les corps de ceux qui étaient morts durant le trajet. Ceux dont la mort remontait à plusieurs jours étaient boursouflés et dans un état de décomposition plus ou moins avancé. Il s'en dégageait une odeur putride. Des milliers de mouches attirées par les cadavres s'attaquaient aussi aux vivants, les harcelant sans cesse. Dès notre arrivée, nous fûmes séparés, ma mère, mes fils et moi, de mon père et de mon mari. Nous faisions partie maintenant d'une colonne qui s'étendait sur plusieurs centaines de mètres. Le convoi avait dû débarquer 4 à 5 000 voyageurs, défilant devant une trentaine de SS, dont le commandant du camp et des officiers de grades divers. C'était la première sélection au cours de laquelle allaient être désignées les victimes pour le four crématoire, comme nous devions l'apprendre plus tard. Les enfants et les vieillards étaient sélectionnés automatiquement. Lorsque le moment de la séparation arriva, ce furent des scènes atroces. Ces cris de désespoir, ces appels « Maman, maman » résonneront toujours à mes oreilles. Mais les gardes SS ne s'embarrassaient pas de sentiments. Ils frappaient tous ceux qui essayaient de résister, vieillards ou enfants, et eurent vite fait de former de notre colonne deux groupes, toujours par rang de cinq. Dans mon impardonnable naïveté, je crus l'officier SS qui nous affirma que les vieux resteraient près des enfants dont ils auraient la charge de s'occuper. J'en déduisis tout naturellement que les adultes, dans la force de l'âge, auraient à travailler. À notre tour, ma mère, mes fils et moi dûmes passer devant les sélectionneurs. Je commis alors ma seconde et horrible erreur. L'officier nous désigna, ma mère et moi, pour le groupe des adultes, le plus jeune de mes deux fils pour celui des enfants et des vieillards, et hésita une seconde devant mon fils aîné. Ce SS était un grand gaillard brun à lunettes. Il s'efforçait visiblement de se comporter correctement. Plus tard, j'appris son nom. C'était le docteur Klein, le grand sélectionneur qui devait devenir en 1945 l'une des vedettes du procès des bourreaux de Belsen. « Ce garçon doit avoir plus de 12 ans, dit-il. « Non, protestai-je. La vérité était que mon fils n'avait pas encore 12 ans, mais il était fort et grand pour son âge. J'aurais pu mentir, cependant, je voulais lui épargner des travaux pénibles pour son jeune âge. « Ça va, dit-il, à gauche. » J'avais persuadé sans peine ma mère qu'elle ferait mieux de suivre les enfants pour pouvoir prendre soin d'eux. À son âge, elle pouvait prétendre au traitement des vieux. « Ma mère voudrait rester avec les enfants, » dis-je à l'officier. Celui-ci acquiesça. « Vous vous retrouverez tous dans le même camp, » dit-il. « Et dans quelques semaines, vous serez tous réunis, » renchérit un autre en riant. « Au suivant. » Sans m'en douter, et en voulant les sauver, je venais de condamner à mort mon fils aîné et ma mère.
Ainsi s'ouvraient les portes des camps. Elles donnaient sur l'enfer. En quelques secondes, le déporté était retranché du monde des vivants. Mieux valait ne plus penser à ce monde, le laisser loin derrière soi comme un trésor que l'on n'aurait plus momentanément la possibilité de regarder, comme une image chère qu'il fallait ne plus avoir le courage d'évoquer. Combien le vers de Dante sonnait juste. Il n'est pire misère qu'un souvenir heureux dans un four de malheur. Et malheur à celui qui ne réalisait pas assez vite la réalité de cet univers de folie dans lequel il venait d'entrer. Les coups pleuvaient sur sa carcasse. Les premières semaines étaient terrifiantes et les morts se chiffraient par dizaines chaque jour dans un transport d'un millier de déportés. Certains en arrivaient à regretter de ne pas avoir été gazés dès l'arrivée ou de ne pas avoir été abattus tout de suite, sort réservé à une catégorie de déportés classée « Actionkugel » par la Gestapo, c'est-à-dire « Action par la balle ». Beaucoup devenaient fous, préférant se jeter dans les fils de fer électrifiés entourant chaque camp. Pour survivre, il fallait tendre toute son énergie, résister à l'épuisement, à la faim, au froid, à toutes les souffrances, tandis que les cheminées des fours crématoires déversaient sans arrêt dans le ciel leur tourbillon de flammes et de fumée. La nuit, les flammes éclairaient comme un incendie le camp tout entier, répandant une âcre odeur de rôti brûlé. Ne pas crever, tenir, ne pas crever, tenir. Tel était l'impératif catégorique, constant, de ceux qui voulaient survivre. Écoutons ce qu'ont écrit le musicien Yves Darrier et l'ethnographe Claude-Francis Boeuf dans leur livre « Intermède ».
Le camp, c'est l'abrutissement, le renoncement à sa personnalité, l'impuissance intellectuelle. Le camp, ce sont les cris, les brutalités, les scènes d'horreur, la crasse, les puces, le pu et la merde. Le camp, c'est le froid encore, le froid toujours. Et c'est la neige, petite neige, grande neige, tempête de neige, rafale de neige. Et c'est le pu, et c'est la merde, et c'est la faim. Et c'est le pu, et c'est la merde, et c'est la neige. Comment sortir de ce pu, de cette merde, de cette neige? Comment en sortir quand il y a le travail, la pelle, la pioche, toute la terrasse? Ce stationnement debout pendant des heures longues, longues, interminables, où l'on a faim, où l'on a froid, où l'on a mal, car il y a la neige, le pu et la merde. C'est pendant des heures cette attente où le corps se glace, où l'esprit se glace, où l'on s'accroche, s'accroche éperdument. Au retour, c'est encore la neige et toujours la neige, pendant une heure, deux heures ou trois ou plus, où immobile dans les rafales, on attend, épuisé, vidé, véritable Locke. S'adapter. Oui, avec un moral sans faille. Un moral d'où tout le passé et tout l'avenir sont rigoureusement bannis. Un moral buté, obstiné, concentré sur un seul point essentiel, fondamental, ne pas crever. La méthode Coué. Ne pas crever, ne pas crever, ne pas crever, ne pas crever.
Le plus terrible de tout, pire que la crainte de la mort, la souffrance des coups ou du froid, était la faim. Une véritable hantise. Manger, pouvoir manger, était le désir obsédant de chaque minute du jour, de chaque instant des nuits sans sommeil. Tous les déportés qui ont écrit sur les camps ont mis l'accent sur cette obsession permanente, horrible, hallucinante de la faim. Ainsi, le docteur Paulette Donzimet-Gazel, médecin à Hahnemann, a écrit dans son livre intitulé « Les conditions d'existence dans les camps de concentration de femmes »
« Ma camarade Lucienne Idoine revoyait apparaître presque à heure fixe la même image. Elle se présentait à elle avec une immuable netteté. C'était un gros morceau de lard rose, translucide, fumant, tremblotant sur un plat de haricots rosés. Elle arrivait même, disait-elle, à en humer le fumet. Lucienne annonçait sa vision par un « ça y est, je revois mon morceau de lard », prononcé d'un ton amusé, quoique un peu désabusé. Les rêves étaient très fréquemment aussi à caractère gastronomique. Et si au milieu d'un tel rêve, nous nous réveillions, nous éprouvions à ce moment une sensation de crampe douloureuse d'estomac. C'était peut-être d'ailleurs cette sensation de contraction douloureuse de l'estomac vide qui nous éveillait brusquement. Quelquefois aussi, la nuit, nous rêvions que nous faisions cuire des côtelettes. Et nous nous réveillions en sentant l'odeur du crématoire, qui, en effet, répandait dans l'air une odeur de côtelettes oubliées sur le grill. Le lendemain matin, plusieurs, se racontant leurs rêves, se trouvaient avoir eu des rêves identiques. Beaucoup disaient « J'ai rêvé que je faisais griller des côtelettes ».
Mais plus encore que 1000 témoignages de cette sorte, un texte presque scientifique du docteur Charles Richet, professeur à la faculté de médecine de Paris et qui fut déporté à Buchenwald, nous donne une idée de la dégradation physique provoquée par la sous-alimentation. Dégradation qui, inévitablement, tôt ou tard, selon la résistance physique du déporté, devait conduire tout le monde à la mort.
Au début de février 1945, la ration diminua. Nous avons essayé de faire une évaluation à peu près exacte de ces rations. L'absence de balance, le fait de ne pas connaître la composition du pain, de la viande pleine d'aponévrose et de petits os, de la margarine, du lait très dilbé, du saucisson, nous interdisent tout calcul précis. Il était impossible également d'évaluer nos dépenses caloriques, en raison du travail auquel la plupart d'entre nous étaient astreints, de l'habillement insuffisant, de la rigueur de la température et du nombre d'heures que nous passions au dehors, on peut fixer à 3000 calories en moyenne nos dépenses physiologiques de chaque jour. En prenant trois menus types, on arrive au chiffre suivant, 1910, 1920, 1960 calories, soit 1930 en moyenne, dont il convient de défalquer les 10% prélevés par les heureux du camp, soit 1740, mettons 1750 calories brutes. Ainsi, de janvier 44 à janvier 45, l'alimentation ne couvrait guère que 60% de nos dépenses. Du début février au milieu d'avril, elle en couvrait 35% environ. Les conséquences de cette alimentation insuffisante, de cette famine lente, sont multiples. C'est avant tout l'amaigrissement. Inutile d'entrer dans les détails physiologiques et médicaux de cette fonte progressive de l'organisme. Supposons réunis quelques milliers d'hommes tuberculeux ou cancéreux à la dernière période, et nous aurons le tableau de ce que représentait le camp, et surtout le petit camp de Buchenwald.
Arbeit macht frei. Le travail rend libre. Telle était la devise inscrite en lettres de fer sur la grille du camp d'Auschwitz. Il s'agissait là d'une diabolique ironie, surtout à la porte d'un camp spécialement réservé aux Juifs, et où 80% des nouveaux arrivants étaient systématiquement désignés pour être aussitôt gazés. Mais la formule était également employée dans les autres camps, sans doute parce que les SS considéraient que la seule liberté qui convenait à des êtres dont le crime à leurs yeux était d'avoir voulu vivre libre ne pouvait être que la mort. S'ajoutant à l'insuffisance de nourriture, le travail souvent effrayant et sans repos imposé aux déportés les conduisait dans une énorme proportion à une mort inévitable. Dimanche prochain à 20h10, sur cette même antenne, Georges Samproun, auteur d'un livre admirable sur la déportation, Le Grand Voyage, dans une émission intitulée « Un système économique », vous parlera des aspects économiques de la déportation. La main-d'œuvre, représentée par des millions de gens déportés en Allemagne, ne pouvait pas en effet ne pas être utilisée par les dirigeants du Reich. Il s'agissait là d'une masse de main-d'œuvre inépuisable et pratiquement gratuite, où la mortalité n'entrait jamais en ligne de compte, puisque sans cesse, de nouveaux arrivants venaient remplacer les morts. Au regard des lois internationales en vigueur à l'époque, les autorités nazies pensaient du reste qu'elles n'avaient pas à se gêner, puisque les conventions de Genève ne s'appliquaient pas aux déportés. Elles ne les concernaient pas. À ce sujet, il est bon de signaler que sur ce point, les conventions internationales n'ont été révisées qu'en 1949 et qu'un bon nombre de pays ne les ont pas encore ratifiées. La main-d'œuvre déportée est considérée comme d'autant plus utile par les maîtres du Reich qu'elle est pour eux une main-d'œuvre muette, une main-d'œuvre qui ne parlera pas car elle doit mourir. L'ordre n'a-t-il pas été donné par Hitler lui-même dans les dernières semaines de la guerre de faire disparaître tous les camps de concentration devant l'avance des Alliés? Non seulement pour effacer les traces du plus grand des crimes hitlériens, pour qu'aucun témoin ne survive pour témoigner des meurtres, mais aussi pour qu'aucun témoin ne puisse signaler les lieux soigneusement camouflés où les Allemands mettaient au point leurs armes secrètes qui, dans l'esprit des maîtres du Reich et jusqu'au dernier jour des hostilités, devaient changer le cours de la guerre. Ainsi, hommes et femmes, les déportés furent également utilisés par le régime hitlérien. Leur incompétence, leur faiblesse, leur volonté de saboter le travail qui leur était confié étaient compensées par leur nombre. Arbeit macht frei. Les déportés hommes et femmes sont descendus dans les mines de sel, dans les mines de fer, dans les mines de charbon. Pour favoriser la circulation des troupes allemandes, ils ont construit l'autostrade de Annaberg. À Ravensbrück, les femmes ont manié la pelle et la pioche pour tracer les routes de Custrin, tandis qu'au Petit Kainisberg, elles nivelaient le camp d'aviation. Les hommes fabriquent des munitions, des masques à gaz, montent des avions, des pièces détachées de Messerschmitt. À Brême, ils construisent des bases sous-marines. À Dora Elric, à Ebensee, à Güssen, ils creusent des tunnels qui serviront d'usine pour la construction d'armes secrètes. Le travail rend libre. Laissons parler les témoins. Raymond Portefait, arrêté à 18 ans à Murat, raconte ce que fut l'enfer de Farge, commando de Neuengam, près de Brême, où les déportés étaient utilisés à la construction d'une base sous-marine.
Mais Farge demeure surtout le bagne maudit où l'on vivait dans des blocs constamment ouverts au vent humide de la mer, où l'on se couchait le soir dans des couvertures moites, à moins que ce ne soit dans le fameux bunker, bloc souterrain, où la gale et la vermine rongeaient les hommes dans une atmosphère que des ventilateurs renouvelaient mal. La formation des commandos se faisait de très grand matin, vers 4h, et durait 1 heure, sous les bourrasques et les grains glacés de la mer du Nord. Il nous est arrivé, sous nos minces costumes rayés, car, en commando, tous les hommes portaient la tenue à raies bleues et blanches des bagnards, de partir au travail complètement mouillé. On travaillait à la construction d'une base sous-marine située à 3 kilomètres du camp, environ. Le trajet se faisait partie à pied, partie en chemin de fer. Ceci non pas pour économiser nos forces, mais pour la commodité de la surveillance. Chacun devait travailler là, qui au ciment, qui aux charpentes métalliques ou encore au terrassement, jusqu'à l'épuisement total. Épuisement qui conduisait les hommes les uns après les autres au revire, infirmerie, où un médecin polonais faisait tout ce qu'il pouvait avec bien peu de choses. Et enfin, pour la plupart, pour le très grand nombre, le cycle se terminait au petit bois de pin situé en bordure du camp et où chaque jour, tantôt ici, tantôt là, pour qu'on ne puisse jamais les retrouver, on enfouissait les morts.
Le sadisme hitlérien n'a pas de limite. La formule « le travail rend libre » ne paraît pas suffisante. Dans presque tous les camps, ont été créés des orchestres avec des détenus musiciens et les misérables qui ne tiennent plus debout partiront au travail en musique. Laissons parler Simon Lax, jeune musicien arrêté le 16 juillet 1942 et qui fit partie de l'un de ces orchestres.
Nous nous rangeons par cinq dans l'allée centrale. Franz Kopka, le chef du commando musique, se tient un peu en avant. Au premier rang, les cinq trompettes, les autres instruments viennent ensuite. En dernier lieu, la grosse caisse encadrée du cymbalier et du tambour, et pour compléter notre formation, deux rangées de violons. La porte principale a maintenant ses deux battants grands ouverts. Un garde SS crie « Allez, musique !» Et nous attaquons notre première marche, cette fois d'après les partitions étalées sur nos pupitres. Aussitôt, les colonnes de détenus commencent à défiler au pas cadencé devant nous, sortant ainsi du camp l'une après l'autre. Au premier rang de chaque colonne se tient un homme à brassard jaune portant ce titre peint en lettres gothiques noires, capot. En passant devant le groupe des SS stationnés à la porte, il crie le chiffre de son effectif en même temps que tous se décoiffent comme un seul homme, conformément au rite.
Partis en musique, les déportés reviendront de leur travail en musique. L'orchestre est de nouveau en place pour les recevoir dans le cérémonial SS. La musique fait partie du décor.
Et de nouveau, les sonorités triomphales de nos marches militaires retentissent. Devant nous, le défilé des détenus en sens inverse recommence. Mais combien différent de celui de ce matin. Exception faite des capots et des chefs d'équipe, les hommes marchent péniblement, les têtes et les épaules affaissées. Certains portent des traces de coups, d'autres soutiennent ceux qui ne peuvent marcher seuls. À la fin de presque chaque colonne, des hommes inanimés gisent sur des brouettes ou des chariots, ou encore sur des brancards improvisés, traînés ou portés par les moins faibles. Parfois, et notamment lorsqu'ils sont plus nombreux, et par cela plus difficiles à compter, ces corps inertes sont jetés par terre sans ménagement et rechargés après vérification. Car il faut que le nombre de détenus rentrants, vivants ou morts, soit rigoureusement égal à celui déclaré le matin à la sortie. Le spectacle dure évidemment beaucoup plus longtemps que le matin. Jusqu'à ce que le dernier commando soit rentré, nous jouons nos marches gaillardes.
Pour le SS, un déporté n'est plus un être humain, ce n'est même pas un numéro matricule. Ce numéro qu'il porte sur sa veste, et souvent également tatoué sur son bras, c'est ein Stück, un morceau. On se sert de ce morceau jusqu'à ce qu'il devienne un squelette, un morceau sec. Alors on le brûle. Et même ses cendres seront utilisées. On en fera des engrais. Mais il faut, avant de mourir, qu'il ait donné toute sa force vitale. C'est pourquoi, dans tous les camps, les SS ont aménagé un revire ou hôpital. Ce n'est pas un lieu où l'on guérit les malades, c'est un lieu de récupération des forces encore utilisables. À une condition toutefois, que ces forces se récupèrent toutes seules. Pour le SS, le revire avait également un autre objet, celui de doser la mortalité en fonction de la capacité d'incinération des fours crématoires. Si les crématoires ne pouvaient brûler plus de 300 corps par jour, par exemple, il ne fallait pas qu'il y eût 500 morts, surtout en été, pendant les chaleurs. Les cadavres risquaient de déclencher des épidémies. De même, quand la mortalité n'était pas suffisante aux yeux des SS, ces derniers se rendaient au revire, choisissaient les déportés qu'ils jugeaient en mauvais état et les envoyaient à la chambre à gaz, à moins qu'ils ne les piquent à l'essence. Ainsi, établissaient-ils une mortalité en proportion avec le fonctionnement des crématoires. C'étaient des médecins SS qui accomplissaient le travail. Le docteur Jean Rousset, arrêté en 1942 et déporté à Buchenwald, nous présente l'un d'eux.
Le médecin chef SS de Buchenwald se nommait Schidlowski. Il était de Francfort-sur-Oder. Son histoire est révélatrice de la beauté d'un régime totalitaire. Il était médecin dans un petit poste de campagne lors de la Révolution nationale socialiste. Il vit de suite tout ce qu'il pouvait en tirer en s'inscrivant au parti. Celui-ci lui offrit immédiatement un stage à Berlin dans le service de Sauerbruch, où il se spécialisa dans la chirurgie. Son absence de conscience lui permit de se distinguer comme médecin d'un camp de détenues femmes, en devenant un spécialiste de la fécondation artificielle. On sait que les femmes destinées pour ce genre d'expérience étaient exécutées après qu'on les ait fait avorter au troisième ou quatrième mois pour étudier le produit de la conception. À Buchenwald, il ne laissait à nul autre le soin de pratiquer les stérilisations. Nous dirons que c'était un spécialiste de l'appareil génital. Un seul fait donnera une idée de son humanité. Ayant découvert un enfant polonais de 3 à 4 ans que les détenus, pris de pitié, avaient embusqué à l'Effektkammer, ou magasin d'habillement, il exigea, en novembre 1944, par moins 27 degrés, qu'il soit immédiatement affecté au Holzhof, donc au travail en plein air, et logé sous une des tentes à simple paroi du Zeltlager. Il donna comme raison qu'il ne devait pas y avoir de juifs dans un bon commando. Cette décision ne prendra vraiment toute sa valeur que lorsque nous aurons dit qu'il était lui-même père de 6 enfants en bas âge.
On devine qu'avec des chefs de cette espèce, la tâche des médecins déportés attachés au revir pour soigner leurs compagnons malades n'était pas une chose facile. Les camps de concentration ne suscitèrent pas de maladies inconnues. Mais les conditions de vie rendaient mortelles les plus bénignes de ces maladies, de même qu'elles provoquaient une extension incroyable des maladies infectieuses, ce qui fut spécialement le cas pour les érysipèles et la pneumonie. En certaines périodes, l'impétigo, l'épiodermite, les épidermomycoses se développaient comme de véritables épidémies, ce qui était encore plus net pour le typhus ou la dysenterie, ces deux dernières maladies provoquant d'innombrables décès, surtout dans les derniers mois de la guerre. Le pourcentage d'atteintes typhiques parmi les déportés des grands camps, établi par hémodiagnostic systématique dans les grands centres d'accueil en France, donne les résultats suivants. Buchenwald, 23-50%. Auschwitz, 35-70%. Dachau, 57-80%. Neuengamme, 59-30%. Bergen-Belsen, 86-60%. Mais qu'ils soient atteints du typhus ou de la dysenterie, les déportés parqués dans des lieux qui leur étaient spécialement réservés achevaient pour la plupart leur vie dans un univers d'épouvante. Le docteur Lenormand, ancien de Mauthausen et de Melk, évoque la baraque des dysentriques.
Le service comprenait en tout et pour tout une petite chambre de 8 mètres sur 4 mètres. Dans cette pièce étaient entassés de 50 à 100 malades, dont il y avait toujours quelques-uns en train de mourir. L'horreur de ce lieu était telle que je ne voulais jamais y envoyer un Français et que je préférais voir mourir mes compatriotes dysentriques partout ailleurs et même au travail. Dans cette petite pièce de dimension convenable pour 3 personnes grouillait au moins une cinquantaine d'hommes décharnés, geignants, délirants qui ne se comprenaient pas, se disputaient en pleurant, cherchait chacun à améliorer sa position au détriment d'un camarade plus faible et souffrait abominablement. Ils étaient nus, à 3 sur les planches mal jointes, avec une seule couverture commune, souillée de matière, d'urine, de sang, de soupe. Ceux des étages supérieurs n'avaient souvent ni la force ni le temps de descendre pour faire leurs besoins. Le plancher, les planches, les couvertures, les corps, tout était souillé. L'odeur âcre des diarrhées était intenable pour ceux qui, comme moi, y pénétraient. Très peu de malades en sortaient vivants.
L'imagination des SS semblait surenchérir sans cesse dans l'ignominie. Les rapports médicaux abondent sur les expériences qui ont été pratiquées sur les déportés, hommes et femmes. Ces expériences ont été systématiques. Variées quant aux moyens de donner rapidement la mort, elles avaient un caractère commun, n'avoir pas même l'excuse de faire progresser la science. On pourrait multiplier les exemples à l'infini. Expériences portant sur les limites de la résistance humaine aux hautes altitudes et qui ont coûté à Dachau la mort de milliers de déportés dans des chambres à basse pression. Celles poursuivies également à Dachau sous la dénomination expérimentations par le froid, au cours desquelles des milliers de déportés furent plongés dans des bacs d'eau glacée et moururent. Inoculation expérimentale de paludisme. Lésions provoquées par le gaz moutarde sur des milliers d'hommes à Natzweiler et à Sachsenhausen. Création expérimentale de plaies infectées par diverses bactéries pour juger de l'effet de certains sulfamides, notamment l'ultraseptile de moule. Étude de la régénération des muscles, nerfs et os, faite à Ravensbrück et qui furent l'occasion de multiples mutilations. Travaux poursuivis à Dachau pour essayer de rendre potable l'eau de mer. Inoculation de la fièvre jaune aux déportés de Sachsenhausen. Méthodes les plus diverses et les plus mutilantes de stérilisation faites dans de nombreux camps, notamment à Ravensbrück. Infection de sang provenant des sujets atteints de typhus au bloc 46 de Buchenwald. Toujours à Buchenwald, mais au bloc 61, distribution d'aliments dans lesquels des poisons divers sont dissimulés. Exécution par balles empoisonnées. Brûlure par application de phosphore pour juger, paraît-il, des effets de certaines bombes incendiaires. Inoculation intratrachéale des bacilles de Koch à des milliers de Polonais, déportés de Struthof, mis à mort pour permettre d'enrichir la collection de squelettes du professeur Hirtz qui s'était installé à l'université de Strasbourg. On n'en finirait pas d'établir la liste, effarante, autant par sa cruauté que par son incohérence du point de vue scientifique, des prétendues expériences. Mais quels étaient donc ces hommes qui contrôlaient ces expériences, qui prenaient un soin jaloux à les effectuer, qui se délectaient à la vue des souffrances qu'elles provoquaient? La doctoresse Olga Lengel, au témoignage de laquelle nous nous sommes déjà référés, fait le portrait de l'un d'eux.
Le médecin-chef du camp de Birkenau, le docteur Mengele, avait en fait d'expérience deux lubies, les jumeaux et les nains. Dès les premières sélections, il faisait mettre à part à chaque nouveau convoi les jumeaux, si possible avec leur père, et les envoyait au camp FKL. Les jumeaux le passionnaient toujours, quel que fussent leur âge et leur sexe. Ils bénéficiaient d'ailleurs d'un traitement de faveur, pouvaient conserver leurs vêtements et leurs cheveux. Le docteur Mengele poussait si bien sa sollicitude pour les jumeaux qu'au moment de l'extermination du camp tchèque, il avait donné l'ordre d'épargner les jumeaux, une douzaine en tout. Nous avons dit que le docteur Mengele se passionnait aussi pour les nains. Il les collectionnait avec un soin jaloux. Le jour où il découvrit dans un convoi nouvellement arrivé une famille de saints nains, il exulta de joie. Mais c'était plutôt une manie de collectionneur qu'un dada de savant. Les observations auxquelles il prétendait se livrer se réduisaient en réalité à bien peu de choses. Mais Mengele n'avait de compte à rendre à personne. Il faisait ce que bon lui semblait et se livrait à ses expériences en amateur.
Inutile de dire que les malheureux nains ou jumeaux étaient exterminés lorsque Mengele avait achevé ses travaux ou que sa manie de collectionneur se portait sur un autre objet. Qu'on en juge d'après le témoignage du docteur Miklos Niisli, à une époque où Mengele se passionnait cette fois pour les pieds beaux.
Au moment de l'extermination des convois de Lodz, je me trouvais un jour vers 10h du matin au grand crématoire, au siège de l'autopsie. Arrivent un homme et son fils, tous deux pieds beaux, accompagnés d'un SS. Mengele a donné l'ordre de les examiner. L'aspect chirurgical du lieu fait qu'ils se croient en clinique. À midi, ils ont faim et déjeunent avec les médecins, après que ceux-ci ont accompli sur eux tous les examens radio et dessins demandés. Vers midi et demi, survient Benzinger, chef SS du crématoire, un Allemand de Budapest, licencié en philosophie. Il dit au médecin « Votre travail est fini, c'est le mien qui commence. » Il emmène le père et le fils et les tue. Peu après, Mengele vient réclamer les os qui l'intéressent. « Nous ne sommes pas outillés, » répond un médecin. Mengele envoie son ordonnance chercher un récipient assez vaste. On fait l'autopsie des cadavres et on les met à bouillir dans le récipient pour pouvoir récupérer les os. Quelqu'un vient prévenir un peu plus tard « Attention à votre soupe » s'écrie-t-il. Un commando de déportés l'a reniflé, il ne savait pas ce qui cuisait et ont pris des morceaux de viande. « Ils l'ont trouvée bonne !» s'exclame Mengele et il s'étend avec complaisance sur cette histoire qui lui paraît pleine d'humour. les deux pieds beaux partageant à midi le repas des médecins, tandis que quelques heures plus tard, ils sont mangés à leur tour, leurs os devenant pièces anatomiques.
Du fond de cette horreur dans l'horreur que constituaient les infirmeries dans les camps, nous ne pouvons pas ne pas conclure par un message d'espoir. Car il est une réalité que les brutes ne conçoivent pas et qu'en conséquence les SS et leurs prétendus médecins ne pouvaient imaginer, que de la plus vile matière, l'esprit naît, que sur les déchets, les fleurs naissent. Mark Zamansky, ancien déporté de Mauthausen et d'Ebensee, aujourd'hui doyen de la faculté des sciences de Paris et président de l'amicale des anciens de Mauthausen, en témoigne.
Les considérations médicales n'expliquent pas plusieurs miracles dont les camps de déportés ont été le théâtre. Quelques hommes sont morts là-bas en pleine lumière, conscients de leur sacrifice, et d'autres, dignes de ceux-ci, ayant résisté physiquement et spirituellement à la vie matérielle et morale qu'imposait cette société, sont revenus avec une sensibilité plus fine, un esprit plus clair, grandi, purifié, embelli. C'est un lieu commun en médecine d'affirmer l'importance du moral d'un malade au cours de la maladie. Mais dans les circonstances présentes que le monde entier connaît, il n'était pas humainement concevable que le moral pût encore, au moins dans quelques cas, l'emporter. Cela eut lieu. Parce que des hommes qui délibérément avaient fait le sacrifice de leur vie ne la considéraient plus comme un bien premier, non plus la liberté. Ils se sont accrochés sans désespoir, mais de toute leur volonté et de toute leur puissance, à quelques valeurs que cette forme de civilisation ne pouvait détruire. Le don de soi, l'amitié, la beauté, le respect de l'homme, même de l'homme déchu apparemment. L'affirmation de l'homme espoir, entendons ce mot au sens humaniste le plus large, a tout sauvé, tout balayé. Nous sommes tous maintenant, croyants et incroyants, persuadés que l'homme ne vit pas seulement de pain.
Plus que nulle part, l'amitié jouait aussi son rôle réconfortant. Une amitié exceptionnelle, inimaginable pour ceux qui n'ont pas connu cet enfer, une amitié qui a survécu à 20 ans de vie normale et qui fait qu'aujourd'hui, pour la presque totalité des rescapés, quelles que soient les différences de culture ou de situation sociale, retrouver un frère de misère se pare toujours d'une profonde émotion. Cette amitié s'exprime dans tous les témoignages et l'on en trouvera un autre exemple dans le livre « Haftling 43-485 » de maître Pierre Chapelet, avocat à la cour de Rennes, déporté à Buchenwald, puis à Dora et Bergen-Belsen.
Miracle de l'amitié. Je ne désirais plus rien, je n'avais plus besoin de rien, je ne souffrais plus. Mais ma gaieté demeurait absente, je n'avais nulle envie de rire, je ne le pouvais pas. Personne ne riait jamais. Nous nous rachetions de cette fixité qui traduisait en réalité quelque vague obsession de la mort par je ne sais quel snobisme du langage quand, par une sorte d'ironie malicieuse, nous croyons nous retrouver entre gens du monde et nous ressaisir par des conversations pleines de recherches et de sous-entendus. Nous formions cercle, on se parlait à voix basse. Le militaire faisait de la stratégie, le savant s'étendait longuement sur ses découvertes, l'homme politique reconstruisait l'Europe, et l'écrivain brodait sur des thèmes de son choix. Ces réunions de locteurs affinés dans un encadrement de paillasses béantes et au milieu d'une figuration tumultueuse, dont les personnages tenus à l'écart se demandaient quel secret pouvait bien s'y chuchoter, aurait eu à elle seule le mérite d'être risible si nous avions été capables d'en apprécier le ridicule et de manifester un amusement quelconque. Elles avaient l'excuse de nous offrir une évasion momentanée. Pour un peu, par réaction contre le capharnaüm abominable auquel nous étions condamnés, nous aurions tenu la comédie des initiés et des bien-pensants en imitant les enfants quand ils jouent aux grandes personnes.
Il y avait l'amitié, il y avait aussi la charité, la solidarité, le dévouement permanent,
une union de sentiments, croyants et libres penseurs, collaborèrent entre eux pour donner son plein sens au mot catholique « pour tous ». C'est le révérend père Michel Riquet, directeur de la conférence Laennec, au moment de son arrestation en janvier 1944, et depuis, pendant de nombreuses années, prédicateur à Notre-Dame de Paris, qui en témoigne.
Cette évasion vers Dieu n'avait rien d'égoïste, et je la vis habituellement s'accompagner de la plus touchante charité fraternelle, celle-ci étant d'ailleurs le chemin qui conduit à celle-là. Comment celui qui n'aime pas son frère qu'il voit peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Au contraire, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Puissent-ils en faire totalement l'expérience, mes camarades communistes que j'ai vus toujours si empressés à organiser l'entraide et la solidarité à Compiègne, à Mauthausen, à Dachau? Si elles s'organisaient d'abord pour ceux du parti, elles ne s'y limitaient pas. Je n'ai été ni le premier ni le seul à en bénéficier. Plus d'un prêtre pourrait en témoigner, comme moi. C'est grâce à leur initiative et à leur entremise qu'en juillet 1944, je fus préservé d'un départ qui fut hélas fatal à d'autres. Installé dans un commando de Mauthausen même, je fus encore pourvu par leur ingénieuse sollicitude de vêtements convenables, de linge et, détail touchant, d'un chapelet, d'un missel et de médailles que je conserve précieusement en souvenir de cette main tendue, alors sans arrière-pensée.
La vie du déporté, auprès de laquelle celle d'un bagnard peut être considérée comme une existence paradisiaque, aura été essentiellement, et souvent inconsciemment chez certains hommes rudes qui se refusaient à analyser leurs sentiments, un acte d'amour, comme avait été un acte d'amour leur participation à la résistance qui les avait conduits dans ces lieux tragiques. Amour de la liberté, amour de l'homme, amour du bon, du bien, du vrai. Amour de sa famille et de ses enfants que l'on ne voulait pas voir grandir et vivre sous la botte des brutes orgueilleuses et stupides de Hitler, mais aussi amour de la patrie. Le Russe évoque sa terre natale, tel cet ingénieur soviétique qui récite à Mauthausen des poèmes de Pushkin. Les Italiens, la leur, les Polonais également. À Mauthausen, un groupe de Français se forme autour d'un professeur d'histoire qui, à raison d'un cours de 10 minutes par jour pendant la soupe, fera un exposé sur la Révolution française. D'autres, des Parisiens, essaient de reconstituer les stations de métro jalonnant les lignes traversant Paris. Ainsi évoque-t-il mieux la ville dont il garde 1000 souvenirs au cœur. D'autres reconstituent une fable de La Fontaine, un poème de Lamartine. Ainsi, ce colonel, dont parle le professeur Gilbert Dreyfus dans Cimetière sans tombeau, qui s'était proposé d'apprendre une tirade d'Andromaque, comme s'il regrettait de ne pas savoir ce qui représentait pour lui un aspect de la France qu'il ignorait.
Un soir que nous évoquions avec un groupe de cheminots réfractaires des aventures du maquis, le colonel C. s'est approché de nous, timidement. Ce brave colonel C. IM-85. La disparition sous les mâchoires de la tondeuse d'une barbiche à l'impériale dont tout Compiègne a gardé le souvenir n'avait en rien altéré sa dignité. Il venait me présenter une requête. Il se proposait d'apprendre Andromaque, dont il avait ouï dire que je savais par cœur de longs fragments. Il ne manquait ni de bonne volonté, ni d'application. Par contre, sur le chapitre de la mémoire, il me fit l'effet de n'être que médiocrement doué. Le lendemain, chacun de nous pouvait l'entendre se réciter à mi-voix « Songe, songe, ses fils, à cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple. » Mais il butait avec obstination sur le deuxième hémistiche. « Voyons, mon colonel, une nuit éternelle. » Et les jours suivants, il n'avait de cesse qu'il ne m'eût trouvé. « Toubib, c'est justement vous que je cherchais. À cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit quoi ?» Il possédait tout de même et à fond les 4 premiers vers de la tirade quand il est parti travailler en commando. J'ai appris beaucoup plus tard qu'il y était mort au bout de 3 semaines. Puisse ces mânes avoir aux Champs-Élysées rencontré ceux de Racine. Ce ne serait que justice. Et je suis sûr qu'ils auront fraternisé. Car, avec ses multiples modes d'expression, le génie de la France est indivisible.
Tous les témoignages concordent. Dans l'ignominie des camps, face aux bourreaux, la pensée résiste et survit dans une atmosphère de confiance et de fraternité qu'aucun survivant n'a pu oublier. Léon Mazot, professeur à la faculté de droit de Paris, déporté à Buchenwald, écrit, évoquant ce qu'il appelle les êtres d'exception autour desquels se groupaient les personnalités moins fortes.
Ceux-là ont une foi, un idéal, idéal politique ou religieux, communiste ou chrétien le plus souvent. Non pas des communistes d'inscription ni des chrétiens de baptême, mais communistes dans leur cœur ou chrétiens dans leur âme. Les uns et les autres pratiquent une commune charité. Ils donnent même leur pain, ils donnent même leur force. Ils donnent même leur vie. Ils ont l'amour du camarade ou du prochain. Par tous les charitables, la politique est mise au service de tous. Un militant communiste use de sa puissance pour éviter transport mortel ou durs travaux, sans distinction de parti. Un groupe d'intellectuels et d'officiers tchèques, serviables et hardis, lutte sans trêve pour la protection des Français. Des personnalités jouent de leur influence pour sauver des prisonniers sans appui. Ici, des camarades se groupent pour soutenir un malade, lui donner leur nourriture. Là, des prêtres admirables consacrent en secret le corps du Christ, distribuent le pain de vie.
Aussi tragiques qu'ils furent, les camps resteront pour les survivants une prodigieuse école de fraternité humaine dont les hommes devraient recueillir la leçon des témoins. Dans la promiscuité physique et morale la plus horrible, lorsque la privation d'un morceau de pain pouvait causer mort d'homme, lorsqu'une conversation, un rassemblement pouvait ouvrir le chemin du crématoire, lorsque la foi religieuse était proscrite, lorsque la fidélité à des convictions politiques était un crime, il s'est trouvé des hommes et des femmes pour organiser la solidarité, pour sauver des vies, pour s'opposer à la volonté de mort des SS et de leurs séides. Des prêtres ont donné la communion, des communistes ont organisé la résistance. Risquer sa vie pour transmettre des nouvelles, pour organiser des réunions clandestines, intervenir pour tenter d'arracher un camarade à une sélection, à un transport, voler des galoches ou un médicament pour sauver un malade, cela empêchait de se souvenir que l'on avait faim, que l'on pouvait soi-même être sélectionné. C'était refuser de s'intégrer à l'univers concentrationnaire et parier pour l'avenir. Ceux qui ont tenu dans les camps, même s'ils n'ont pas pu retenir leur propre vie, mais celle de quelques autres, ce sont ceux qui surent protéger leur foi, leur idéal, leur dignité d'homme, leur conviction politique, leur sentiment de responsabilité et de solidarité humaine. Des religieux, des officiers, des intellectuels, des communistes, des démocrates, ont ainsi apporté la preuve au sein de l'horreur que les valeurs humaines, spirituelles, morales, proscrites dans les camps et annihilées par eux, n'étaient pas un leurre et valaient la peine d'être défendues au péril même de sa propre vie.
France Culture vient de vous présenter Le Monde concentrationnaire, témoignages et documents pour servir l'histoire. Une suite d'émissions composées par Yves Darrier et Alain Trutat.
Aujourd'hui, par Paul Tillard, Le message des témoins. Choix de textes écrits par des déportés après leur libération. Textes lus par Louis Arbessier, Michel Bouquet, René Clermont, Pierre Constant, Pierre Delbon, Pierre Leproux, Jean Negroni, Renaud Marie, Catherine Sellers, Maria Tamar, Jean Topard. Chef opérateur du son, Robert Lavoignat. Collaboration technique, Jean-Louis Guérin. Assistante Lucette Alléo. Réalisation Alain Barou.
C'était Le Message des Témoins, le 20e de 27 numéros de la série Le Monde Concentrationnaire. Un épisode de Paul Thiard, réalisé par Alain Barou et diffusé pour la première fois le 21 mai 1965 sur France Culture. À suivre.